jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barre, pas enraser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en nombre à guetter ma rechute. Nous n'étions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rut. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète, je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et je suis un peu.
Sébastien.
Salut.
Bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Z. C'est les teams imaginaires vraiment en version minimaliste jusqu'à 22h, mais on va entendre parler pas mal de monde dans cette émission. Tout d'abord, on reçoit Philippe.
Philippe Jaillet, donc, qui a les rênes de la maison d'édition associative Posidonia.
Ah oui.
Qui est située à Cannes. Mais là, on va parler plutôt du prix du livre-jeu. Il en est le secrétaire et va nous en parler donc un peu plus, donc en mini-interview téléphonique.
Prix du livre-jeu qui sera remis à Cannes, justement.
Lors du Festival International des Jeux de Cannes, dans une semaine à peu près.
Ok, donc on l'aura au téléphone dans quelques minutes. Ensuite, on s'écoutera une chronique de Jean Hugues, ça faisait un petit moment. Il a lu, comme d'habitude, pas mal de polars et puis regardé des séries télé. Toi, tu vas avoir le temps de nous parler d'une AVH.
Alors, d'une aventure dont vous êtes le héros. C'est le quatrième opus des Fils du Soleil, une saga rédigée par Voyageurs Solitaires, dont le premier tome d'ailleurs était sorti chez Posidonia, un Yas d'or, et qui a concouru au prix du livre-jeu, Les Tambours de Chamanka.
Et on l'avait eu en interview dans cette émission, hein.
Fin décembre 2022, donc pour parler des Tambours de Chamanka.
Et puis en deuxième partie d'émission, on écoutera l'interview de Lou Luby et Solène Guivre, qui étaient aux Utopiales pour faire la promotion de leur première bande dessinée commune, Eurydice, sortie chez Delcourt. Allez, un petit peu de surf musique parce que le soleil est revenu à Angers et puis Philippe
il va nous apporter le soleil de Cannes.
Prix du livre, ouais, super. Dans quelques minutes sur le 101.5. Big Dragster en 1989, groupe de surf music de New York, un unique cool, album et le morceau Radio Surf. Allô Philippe ?
Allô, oui, allô.
Ah bah voilà, super.
Ah bah super. Ça va ?
Super, super. Ça va bien et vous ?
Très très bien. Dis-moi donc on a rapidement présenté un peu qui tu étais, donc plutôt donc à la base, à l'origine de la maison d'édition Posidonia. Mais ce soir, on va parler plus particulièrement du prix du livre-jeu.
Et,
déjà pour nos auditeurs du 101.5 FM, est-ce que tu peux nous resituer ce qu'est le prix, la genèse et tout?
Alors, à la base, le prix du livre-jeu, c'est un prix qui récompense les livres dont vous êtes le héros, ou livre-jeu, car c'est une marque déposée de Gallimard, qui ont été publiés dans l'année précédente. Le propos étant que tout livre qui est arborescent peut candidater, que ce soit les livres dont vous êtes le héros standard, les livres dont vous êtes le héros sans système de jeu, même les... un timing graphique peuvent, du moment qu'il y a un renvoi de page, peuvent concourir, ainsi que les bandes dessinées, idéalement, dont vous êtes le héros, peuvent candidater. Le but est réellement de pouvoir réaliser un prix pour que tous les livres publiés physiquement le soient. Il s'est présenté un peu, si vous voulez, dans le sens du complément du Yastromo et du Mini-Yas, qui eux récompensaient les AVH publiés en ligne, mais pas forcément en physique. Le but étant réellement de permettre que cet aspect qui était jusque-là inexistant se réalise. C'était ça, en fait, l'essence de l'idée du prix du livre-jeu.
Et là, on en est à la 4e édition.
Oui, tout à fait.
Et donc, quel bilan déjà retires-tu des 3 premières éditions par rapport au livre primé? Est-ce que ça a eu un impact? Et si oui, lequel? Pour les éditeurs qui ont gagné.
Alors, disons, un impact, c'est que les éditeurs apprécient toujours d'avoir le fait que leur jeu gagne un prix littéraire. Les prix littéraires ont toujours existé, ont toujours été un vecteur de visibilité, de promotion, de reconnaissance aussi, surtout pour l'auteur et la qualité de son travail. Et aussi, n'oublions pas, les illustrateurs qui, dans Lions et Héros, sont très présents. Après, globalement, le bilan des prix était, je pense, très positif. Cette année encore, nous avons eu plusieurs dizaines de titres proposés, donc vous êtes le héros, que ce soit par au moins une bonne dizaine d'éditeurs, ce qui est, je pense, le signe que le prix est tout de même apprécié par un certain nombre de personnes qui participent pour certaines depuis l'origine et d'autres étant arrivées en cours de route. Mais je pense que le bilan est globalement très positif.
Et d'ailleurs, alors je note que pour cette 4e édition, prix du livre-jeu 2024, ce qu'on récompense ceux de l'année antérieure en 2025, on a donc en premier participant comme éditeur Sarbacane.
Oui,
Et tu dois être au courant naturellement, Philippe, que dans la catégorie enfant, Sarbacane concourt pour Holly Osley et le Manoir maudit, un roman interactif pour la jeunesse. Donc, et pour la catégorie adulte, on a encore Sarbacane qui concourt, donc qui est finaliste, avec Reine de l'Ouest, encore un roman interactif, et de la même autrice, H. Lenoir, avec qui j'ai eu plaisir donc de m'entretenir lors d'un autre festival fameux, le Cultissime, du mois de septembre.
Alors, je voudrais écouter toujours son interview sur notre page podcast.
Oui. Tout à fait, Romain. Et dis-moi, Philippe, d'ailleurs, donc moi, c'est une première d'ailleurs qu'on a deux fois un éditeur qui soit finaliste tant dans la catégorie enfant que la catégorie adulte.
Ah, alors après, il faut voir une chose, s'ils sont finalistes, c'est que la qualité du travail a été reconnue. Après, nous avions tout de même, je crois, une bonne quinzaine de participants dans chaque catégorie. Le détail d'ailleurs est donné sur le site prixdulivrejeu.fr où vous avez le nom de tous les participants de l'année et des années précédentes. Mais il est peut-être peu commun d'avoir des auteurs qui rédigent à la fois des livres explicitement jeunesse et des livres non jeunesse, catégorie ado-adulte. Après, d'autres ont pu être, auraient pu potentiellement l'être, s'ils avaient eu leurs livres publiés la même année. Je pense que c'est là la principale raison, c'est surtout que les livres sont parus sur le même créneau, pour cette raison-là. Mais après, les livres sont d'une excellente facture, et je pense que leur présence est tout à fait justifiée dedans.
Et dis-moi, alors moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un peu l'évolution des titres qui participent à ce prix. Et là, je viens de te citer donc deux romans interactifs. Et c'est vrai que dans les finalistes, donc on a Holly Osley, Le Manoir Maudit, Sauve ton Tamagotchi, Toutou Détective, le tome 2, Disparition Claire de Lune, donc dans la catégorie enfant. Je vais rappeler aussi ceux qui concourent dans la catégorie adulte, les finalistes, Reine de l'Ouest, Notos, Survivre à Herlier. Et je note quand même qu'on a une bonne représentation de romans interactifs, en fait de livres-jeux qui se jouent sans dé. Pour toi, aujourd'hui, le fait de jouer sans dé, c'est une habitude donc de joukineur, donc qui risque de continuer d'augmenter.
En elle-même, la pratique ne date pas d'aujourd'hui. Même si on prend certains livres dont vous êtes le héros anglais ancien, avait déjà le principe. Il faut concevoir que le livre dont vous êtes le héros, à la base, c'est fait pour permettre d'être un mode de démonstration pour la vente de Donjons et Dragons, et que par là même, un système était requis. Mais si on pousse le raisonnement, le livre dont vous êtes le héros n'est rien de plus qu'un paragraphe orientant vers un choix, de continuer sur un paragraphe ou sur un autre. Après, il peut y avoir des formes diverses, mais en soi-même, ce sont des livres dont vous êtes le héros par abus de langage, mais je pense qu'aujourd'hui, le système doit servir un propos. Si on fait un système pour faire un système, autant ne pas faire de système et offrir un choix. Et de nombreux livres, d'ailleurs, se sont orientés vers cette optique. Il y avait le Vrai Chemin, qui avait été publié chez Posidonia, justement, qui était spécialisé dans le fait de ne pas faire de système et de faire du choix pur. À partir de là, c'est un choix qui a l'avantage d'être très léger, qui est très appréciable pour les nouveaux joueurs, qui a comme énorme avantage, notamment pour le cas des enfants, de faire l'absence de toute gestion de calcul ou autre est simplement le choix pur. C'est-à-dire que c'est un moyen qui est d'ouverture, dirons-nous, vers tous et qui permet de ne pas avoir à se préoccuper d'aucune manière de la question de l'équilibrage, mais réellement de se concentrer sur l'histoire. Ce qui est tout à fait, je pense, en adéquation avec l'époque. Après, les jeux de rôle, si on prend le cas des jeux de rôle, dont le jeu Lions et Cléros servait de porte d'entrée, les jeux de rôle américains ont toujours été d'une complexité extrême. Les livres dont vous êtes le héros ont été déjà une grosse simplification qui ont permis de servir de porte d'entrée pour la pratique du jeu de rôle. Et si on va par là, en fait, le jeu de rôle, le livre dont vous êtes le héros sans système est une porte d'entrée, on va dire, encore plus large pour permettre à tous de découvrir la passion du jouquinage. Donc, je pense que c'est une bonne ouverture et de toute façon, personne n'est malvenu. Tout le monde peut venir. Si certains aiment les lions et les héros à système riche, libre à eux d'en prendre un. Si d'autres détestent et sont bloqués par ça, ils peuvent trouver dans les livres sans système une porte d'entrée et d'appréciation de notre passion.
D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les finalistes que j'ai énumérés. Il y a des livres sans système et avec système. On a même un jeu de rôle solo, qui est Notos, une somme. Je pense qu'on dépasse les 1000 paragraphes. Et j'aimerais finir, Philippe, sur une nouvelle collection chez Posidonia, Les Aventures Improbables, parce que Posidonia, figure-toi Romain, aime bien rééditer des classiques, comme Les Histoires à Jouer. Et là, en fait, c'est des livres qui étaient parus, des livres-jeux qui étaient parus chez Mégara, de Benjamin Berger, qui est le rédacteur, entre autres, du Marteau et l'Enclume. Et brièvement, peux-tu nous dire, Philippe, quel a été ton souhait de rééditer ces livres-jeux de Benjamin Berger dans la collection Les Aventures Improbables?
Ah, alors en fait, les livres de Benjamin avaient été publiés donc à l'époque chez Mégara, et bon, la vie aidant, les aléas, il n'avait pas pu faire tous les livres qu'il aurait voulu, par manque de temps et de possibilités, et donc là, il a pour projet de faire donc les suites, justement, de la geste du chevalier errant, et bah, donc, qui devra arriver, je pense, d'ici un certain temps, le temps qu'il soit rédigé. Et c'est d'ailleurs pour ça que le livre porte le numéro 1, La Mort Noire, c'est que les suites sont prévues pour être rédigées et devraient normalement, d'ici quelques temps, avancer. Et c'est pour ça aussi que nous avons publié le livre, c'est pour permettre de publier la suite, il eût été délicat de faire le volume 2 sans refaire les volumes 1 et, le volume 0 et les volumes 1, en fait. Donc, c'est dans cette optique-là. Mais après, de base, Posidonia a toujours été spécialisé dans la réédition, mais également avec des nouveautés. C'est-à-dire que les histoires jouées ont été republiées. Le vrai chemin avait été publié précédemment uniquement en PDF. Nous avons fait des versions physiques. Mais de base, nous avons vocation à faire que tous les livres dont vous êtes le héros, qui aujourd'hui pour certains sont extrêmement difficiles à obtenir et ou à des prix absolument honteux sur eBay et Le Bon Coin, soient accessibles à tous pour un prix décent. Ce qui, je pense, est une chose qui serait bien pour permettre l'accessibilité des titres à tout le monde.
Bah écoute, Philippe, merci beaucoup pour ce tour d'horizon du prix du livre-jeu, pour permettre à nos auditeurs de mieux en saisir, on va dire, la définition. Et d'avoir abordé ces aventures improbables. Moi, je recommande Benjamin Berger parce qu'il a vraiment un style truculent qui rappelle aussi Brennan, qui est un auteur malheureusement décédé, qui a fait les quêtes du Graal avec un humour à l'anglaise. Et vraiment, lisez. Moi, j'avais l'épopée du moine guerrier de Feu Mégara et c'est vraiment d'une drôlerie. Et là, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est des livres-jeux, Mathilde et Benjamin, qui ont été revus, révisés. Donc c'est pas que des rééditions en pur et dur. Donc je vous invite vraiment à découvrir ces nouvelles aventures improbables. Et là, Philippe, donc on va te quitter sur ton choix de titre. Peux-tu nous dire pourquoi ce titre ?
Ah bah tout simplement, je pense qu'il était une bonne clôture pour la question, pour rappeler que le temps passe et que nous grandissons, mais que par contre certaines passions malgré tout restent. Et que le lion, vous êtes le héros, qui nous a habités quand nous étions enfants, aujourd'hui encore, peut continuer à exister, malgré le temps qui passe.
Et ce titre, c'est ?
C'est J'ai appris, de James Derrick.
Ok, bah, je te souhaite à très vite, Philippe. Merci beaucoup.
Merci, Philippe. Eh ben, on va essayer d'écouter un CD. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé dans cette émission, mais c'est un des deux CD de rap français que j'ai chez moi.
Ah bah.
Donc, on essaye d'écouter James Derrick tout de suite, dans l'imaginaire. Merci Philippe.
Salut.
Au revoir.
N'étaient pas des fantômes assez tristes. Je ne suis plus roi de mon petit royaume. Ma boîte à secrets, hier je l'ai jetée. Les étoiles dans le ciel ne sont que des soleils éloignés. Les heures deviennent des jours, les mystères se font plus minces. Et ce n'est plus aussi drôle de salir mon pantalon à pinces. Mes yeux ne brillent plus devant les bougies d'anniversaire. La poussière s'accumule sur mon déguisement de corsaire. Je ne retrouve plus mes anciens pouvoirs surnaturels. Moins jolis sont mes dessins, sans maison ni arc-en-ciel. Ma peau est taillée dans la brique, mes rêves rayés par un pic, submergé par la logique, mon placard n'est plus magique. Mes jouets ne me répondent plus quand je leur parle de mon amoureuse. L'innocence ne résonne plus, ma raison est suspicieuse. Un jour comme les autres est devenu le mercredi. Il n'y a plus non plus de monstres cachés sous mon lit. Dans ce jeu de dupes, bousculé dans nos tumultes, maintenant la vie m'insulte. J'ai compris, je deviens adulte.
Ouais, James Derrick dans l'imaginaire sur le 100.5, un extrait de l'album, ouais, le cri du papillon, que moi j'ai découvert à une soirée Radio Nova au Shabada. Il y a une époque où alors les soirées Radio Nova, je sais plus comment ça s'appelle, c'est plutôt le vendredi là, ça doit exister encore, mais elle tournait des fois en province. Et je me rappelle qu'il fallait aller chercher ses places au Shabada une semaine avant, faire la queue et tout machin. Après, bon, c'était des soirées gratuites qui étaient en direct. J'avoue que je n'écoute plus trop Radio Nova maintenant. Il y a vraiment trop de pubs pour moi. Et ben, de toute façon, maintenant, on est sur Radio G. Et donc, on va s'écouter le retour des chroniques de Jean Hugues.
Yes.
Dans Imaginaire.
Félicitations, Edgy, c'est un calamar.
Chers amis auditeurs, chers condisciples, mes chéris, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va essentiellement parler policiers. Alors, tout d'abord, les romans policiers avec une sorte de résurrection, puisque nous allons parler de La fille du poulpe. Alors, le poulpe, c'est un héros populaire de polar des années 90 qui n'est pas un policier. Libertaire, hédoniste, il se livre à des enquêtes qui met en scène milieux corrompus, police dilettante et autres plaies de notre société moderne. Alors c'est un héros qui est né sur une idée géniale de Jean-Bernard Puy, qui va être le directeur de la collection, qui est soutenu cette collection par la maison d'édition La Baleine de l'incontournable Antoine de Carverso. Alors Gabriel, dit le poulpe, parce qu'il a les bras trop longs, vivra 290 aventures. J'imagine que la fin des éditions La Baleine a mis fin à son épopée. Mais comment se passer d'un héros tel que Gabriel dans un monde où il serait décent d'imaginer que poser le doigt là où ça fait mal, ça serait sympa. Gabriella est donc née. C'est la fille adoptive de Gabriel, une jeune femme charmante qui est née en 2000. Elle vit sa vie sans contrainte autre que l'amitié, la justice et un dédain pour l'autorité qui n'est pas sans nous rappeler quelqu'un. Il s'agit d'une transposition féminine de ce que pouvait être Gabrielle dans la génération Z et forcément ça change un peu la donne sociétale. Alors, Gabriella se trouve donc impliquée dans des enquêtes, souvent de manière fortuite, un peu comme son papa. Alors, dans notre époque de banalisation de l'extrême droite, il était temps qu'une héroïne pointe le bout de son nez mutin. Gabriel, quant à lui, prétextant le décès d'un être proche, s'abîme dans des expériences de brasseur-consommateur, oui, de bière donc, avec une opiniâtreté qui n'est pas sans rappeler celle dont il faisait preuve dans ses enquêtes. Il reste cependant très attaché à Gabriella et répond toujours avec réticence aux éventuelles demandes de coups de main. Gabriella semble parfois exaspérée de ce père boomer aux réactions souvent difficilement compréhensibles, mais l'attachement paraît fort. Et il est clair, réciproquement, que la jeune femme a une importance primordiale pour notre héros. Les poupées russes, donc, qui est le cinquième tome des aventures de la fille du poulpe, est un court roman très attachant écrit par Sergei Dounovets. Alors, les poupées russes, c'est déjà un gimmick des aventures du poulpe, c'est-à-dire que les titres sont des calembours à deux balles. D'ailleurs, le premier volume du poulpe, c'était La petite écuyère à cafeter, de Jean-Bernard Puy lui-même. Donc, Les poupées russes, c'est un court roman très attachant, écrit par Sergei Dounovets, qui est le directeur de collection de La fille du poulpe. Outre Sergei, il y a 7 auteurs qui font partie de la première fournée, dont bien évidemment Jean-Bernard Puy, et mon autre chouchou de la bande, l'excellent Jérémy Bouquin, qui hante avec amitié et assiduité nos festivals imaginaires. Alors le pitch, c'est que Zoya est une amie et amante occasionnelle de Gabriella et vit dans une communauté Emmaüs de la Côte Sauvage. C'est une réfugiée libertaire ukrainienne, elle est soupçonnée de meurtre, qu'elle aurait commis d'un coup de sabre dans un colonel de l'armée régulière d'Ukraine. Mais que faisait le bonhomme sur la Côte Sauvage et chez Emmaüs? Gabriella retrouve non sans mal Zoya. Il y a des membres du groupe Wagner qui traînent dans les parages, un gendarme qui a un comportement qu'on taxera inadéquat, et c'est un euphémisme. Bien bref, rien n'est simple. Gabriel finira par s'en mêler, et notre héroïne partira même avec son ami dans le Donbass, où elle découvrira les ors de la guerre moderne et de ses drones. Notre histoire se terminera enfin sur la Côte Sauvage, après un bain en tenue d'Ève qui aurait pu très mal tourner, comme toujours avec Sergueï. Une écriture simple et incisive qui colle très bien au personnage, dont on a envie de connaître l'ensemble des opus. Ensuite, je vous parlais de Fatherland de Robert Harris, chez Pocket. Donc, en mode SS Police, même combat. Donc, oui, je sais, ça fait un peu provocation, mais vous verrez que rien n'en vue de dénigrer nos aimables forces de l'ordre. Puisqu'il s'agit d'un vieux roman de 1992, j'avais d'abord visionné le téléfilm américain de Christopher Menol, idiotement traduit par « Le crépuscule des aigles » et dont je garde l'image d'une voiture des années 60 siglée sinistrement SS et l'on sortait vêtu élégamment d'un uniforme noir coupé par Hugo Boss, Rutger Hauer lui-même. Oui, l'androïde final de Blade Runner. Tout ceci se passe en 1964 dans un monde uchronique où le Reich a gagné la guerre en battant à pleine couture les soviétiques, repoussant un front encore existant au-delà de l'Oural. L'Europe des Douze existe cependant sous la domination nazie, et le président américain Joseph Kennedy viendra sur les terres allemandes afin de fêter les 75 ans d'Adolf Hitler et de signer des accords en vue de détendre les relations entre les deux pays. Mais dans le même temps, des dignitaires nazis de haut rang sont retrouvés assassinés, et la Gestapo ne semble pas faire d'excès de zèle pour savoir ce qui s'est passé. Rien de plus pour déclencher la curiosité du Sturmbannführer March, interprété Hauer donc, qui va commencer à enquêter et donc avoir des soucis avec les Gestapo. Il va trouver une alliée dans la personne d'une jeune journaliste américaine résidant dans le pays en signe de détente. Outre l'enquête qui s'avère classique mais de bon goût, l'exercice littéraire impressionnant réside dans l'Uchronie elle-même. March enquête dans un Berlin laissé à la main des nazis. Albert Speer a laissé son génie monumental prendre ses aises. La population est soumise aux diktats des nazis et de la Gestapo. March, loin des idées et méthodes répressives de la main de fer qui étouffe toute idée contraire à celle du régime, tente de survivre et faire honnêtement son métier de policier. L'ambiance de la vie berlinoise de tous les jours est pesante et glauque à souhait. Mais pourquoi éliminer des dignitaires respectés? Qu'allait est-il chercher dans le coffre d'une banque suisse? Il existe des événements sinistres dont on ne parle pas dans l'empire nazi de cette très belle Ukraine. Et puis, j'ai vu quelques séries, dont une donc, que je vais évoquer avec vous, qui m'a quasi traumatisé. Il s'agit de The Closer, elle a enquête prioritaire. C'est une série américaine visible sur Amazon Prime, par exemple, qui a été tournée entre 2005 et 2012. Alors, les Closers, c'est un truc qui existe. Et ce sont des inspecteurs qui sont réputés capables de résoudre leur enquête en faisant avouer les coupables, ce qui fait gagner énormément de temps et d'argent nécessaire à un habituel procès long et coûteux. Brenda Leigh Johnson est une psychopathe formée par la CIA, devenue enquêtrice à Atlanta, où elle a eu une aventure avec son chef qui l'a muté à Los Angeles après y avoir été lui-même affecté. Cette femme a fait une très forte impression par ses qualités d'enquêtrice hors pair, mais aussi par sa détermination à trouver puis faire avouer les criminels. Rien n'échappe à sa soif de réussite, quitte à sacrifier amis, famille et tout sens moral en général. Capable de promettre monts et merveilles aux personnes interrogées, elle n'a aucun scrupule à mentir sans vergogne de manière à obtenir des aveux. D'un profond égoïsme, elle va tenter de s'interroger sur elle-même, mais le chemin va être très long. Elle est superbement interprétée par Kira Sedgwick, qui a décidé d'arrêter la série à la fin de la sixième saison, puisqu'elle pensait avoir fait le tour du personnage. On la verra ensuite dans les 8 saisons de Brooklyn Nine-Nine et moi, vous me retrouverez bientôt pour une nouvelle chronique.
Welcome Goodbye Eads qui seront en concert demain soir au Jokers. Il reste des places. Le groupe vient de Leeds et c'était un extrait de leur album Delusion Spree qui était sorti en 2022. Sébastien, on va parler libre jeu encore.
Alors la dernière fois, j'avais parlé du fléau de Titan. Alors je voulais vous parler du pirate de l'au-delà, mais ce sera pour une prochaine émission, pourquoi pas la prochaine, parce que le port au crabe, non pas le port du sable noir, ouais,
on a
port au crabe,
dans
le pirate de l'au-delà, c'est un panier de crabe.
Ouais.
J'ai été repassé plusieurs fois, donc j'ai fait une pause et je me suis lancé dans D'écume et de sang, où là on incarne un pirate, Phaidon dit l'ambigu. Pourquoi Phaidon dit l'ambigu? Parce qu'il est hermaphrodite. Il a un sexe de femme, une barbe d'homme et tout. Donc un personnage, pour le coup, des plus originaux. Et au tout début, en fait, pour faire bref, et en fait, il est en lutte avec Atreus, dit le passeur, un rival, pour donc ravir le trône vacant du roi des pirates. Alors, sauf qu'au tout début, on tombe dans un guet-apens, donc c'est pas un spoil, donc un guet-apens donc est tendu par Atreus. Donc on va se retrouver, donc Phaidon d'entrée à devoir s'échapper d'une langue de terre marécageuse qui était un peu le point de rendez-vous pour rejoindre notre vaisseau, le Tirésias. Alors ce que j'adore donc dans ce début de D'écume et de sang, rédigé par Voyageurs Solitaires, c'est qu'on a une fuite haletante. Et figure-toi, Romain, que moi je l'ai réalisé en 7 paragraphes à peine. Mais des paragraphes, vraiment, on se sent dedans, parce qu'on a une flèche dans l'épaule.
Ah oui.
Donc c'est quand même assez handicapant. Et on a aussi des ennemis comme un arbre étrangleur ou une vampire.
Et donc fantastique quand même tout ça.
Un peu fantastique. Et alors vraiment, dès le début, en fait, ce que je note, c'est un peu mon grand A, c'est qu'on part avec des handicaps, donc pas que physiques, également pour notre vaisseau. Nos 3 lieutenants sont morts dans le guet-apens. Sachant que les lieutenants, ben, c'est un peu comme des sortes de héros qui peuvent vraiment nous apporter quelque chose en plus au niveau de la combativité de notre équipage. On a également notre Calpha, en fait, le charpentier qui peut aider à réparer le vaisseau aussi qui est capoute. Et on a perdu, en fait, très rapidement, on perd 6 points d'équipage à cause d'une tempête.
Donc on gère aussi son équipage là-dedans.
Hein?
Dans ce livre, on gère aussi son équipage.
On gère aussi un équipage, donc on a des points d'équipage, la combativité. On a un vaisseau avec un score de résistance et un score de vitesse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des scores évolutifs. On peut avoir des stats faibles en combativité, vitesse, résistance, mais on peut les monter. Et ça, c'est bien, parce que des fois, on se dit « Ah, je commence assez bas », mais on peut quand même les monter. Donc ça, c'est une aide pour le joueur. Donc c'est à souligner. Donc on part avec pas mal d'handicaps. Et là on arrive dans mon grand B, l'archipel des Tekels. Donc on poursuit en fait Atreus à bord de notre vaisseau le Tirésias. Lui il est à bord de la Chimère. Donc ça m'a rappelé en fait Master and Commander. Mmh. Mais en fait Voyageur Solitaire ne s'en est pas du tout inspiré. Et donc dans cet archipel il va falloir dénicher de nouveaux hommes d'équipage. Aussi un charpentier. De la nourriture aussi. Parce qu'on part quand même avec des handicaps. Bon, très vite, on récupère un peu de notre blessure. Mais il va falloir quand même comprendre que dans cet archipel où il y a pas mal d'îles civilisées, eh bien, il faut quand même, dénicher des objets, nous équiper, trouver donc de nouveaux hommes d'équipage. Et il n'y a pas que des bons objets, il y a quand même les lieutenants, de nouveaux lieutenants. Et bon, cher ami auditeur, je n'en ai trouvé aucun de nouveaux lieutenants. Ils sont quand même très bien cachés. Alors ça, c'est pas mal. Au lieu de bons objets, c'est aussi des bons personnages
Qui
peuvent nous aider. Et dans la prochaine partie que je vous dévoilerai donc en mars, eh bien, on rentre là vraiment dans un nouvel archipel, l'archipel de Vanaao, où là, on a des îles beaucoup plus inhospitalières, pas en fait civilisées. On va pouvoir marchander, donc essayer de s'équiper. Donc on a vraiment une progression donc dans l'aventure et c'est vrai que là j'ai pas de lieutenant, j'ai une combativité que de 7 donc vraiment minimale. Donc il va falloir vraiment que je sois prudent lorsque j'aurai mon face à face contre Atreus
ouais.
Parce que de navire contre navire, ça risque de chauffer. Alors le style de Voyageur solitaire, il est excellent. Faut rappeler que Voyageur solitaire que j'ai rencontré, donc souviens-toi, Voyageur solitaire sur Paris avec Dr. Feelgood pour des parties de Talisman, tu connais Romain le jeu. Et ben ce que j'adore c'est ce personnage, c'est qu'il va pas qu'à Paris ou dans d'autres villes de France, il est de Lyon, il voyage à travers le monde entier. Il a découvert énormément de pays, de continents, et d'où son style dépaysant, un style dépaysant qui fait qu'on rentre vraiment dans cette aventure, on se croit vraiment dans cet univers. Il y a eu les tambours de Chamanka, donc le premier tome des Fils du Soleil, et là on découvre un nouvel donc une nouvelle carte de son monde qu'il a imaginé, un monde on va dire maritime et qui est tout aussi génialissime. Et c'est gratuit à lire sur litteraction.fr et chose bien avec des liens cliquables. Alors la Super. Prochaine fois, on verra si j'arrive à en découdre avec le fameux Atreus. Et je voulais faire un hommage à Voyageur solitaire avec une musique de Vangelis, Mutiny on the Bounty.
Reprise par Ed Starink, hein, c'est
voilà,
ça
Ed Starink, sur les compilations synthétiseurs. Un fou de reprise à la note près.
Et puis, juste après, bon, on écoutera l'interview de Lou Luby et Solène Guivre pour Eurydice qui était sorti chez Delcourt. C'était Valentin qui avait fait ça aux Utopiales.
imaginaire et trop utopial pour faire des interviews. Et nous sommes du coup très ravis d'interviewer aujourd'hui Lou Luby et Solène Givre qui ont travaillé ensemble sur la BD Eurydice qui est sortie le 23 octobre 2024. Lou, donc toi tu écris, tu fais des BD depuis un moment, de rien, avec donc du coup bah Eurydice et aussi du coup Racine.
Tout à fait.
Très récemment. Solène, tu programmes aussi, tu es développeuse, j'ai pu observer.
J'ai fait des sites web, mais maintenant c'est relégué au stade de hobby.
Voilà. D'accord.
Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le dessin et l'écriture.
Toi, en fait, tu viens surtout du monde de l'illustration.
Bah, oui.
T'avais jamais touché à la BD en fait.
Ouais, première expérience au Médouf, mais du coup ça m'a complètement soulagée d'avoir Lou au storyboard, parce que déjà ses storyboards sont excellents vu qu'elle a vraiment un don pour la narration. Et moi en fait ça m'a permis de ne pas en fait me casser la tête sur quelque chose qui n'était pas dans mes compétences parce que je l'avais pas appris. Et Lou en fait ça lui permettait non seulement de pouvoir me poser ses idées de manière extrêmement claire, du coup en fait on a eu un gain de temps en termes de production qui était génial.
D'accord, ouais.
Mais qui était indispensable parce que je pense que si j'étais face à un ou une dessinatrice qui voulait storyboarder, il y aurait eu conflit en fait.
Oui.
Il n'y aurait pas eu la même vision. Je pense que ça aurait été plus difficile de s'accorder. Et j'avais, je pense, vraiment besoin de cette harmonie parce que c'est pas ma première collab, mais voilà, c'est quelque chose que je découvrais avec Solène, ce format-là en tout cas. Et super de s'entendre là-dessus, de ne pas se marcher sur les pieds.
Ouais,
et en même temps, toi, tu avais une liberté.
J'avais une très grosse liberté. C'est que dans le storyboard, il y avait des passages avec vraiment, il y avait des cases blanches. Et moi, du waouh! Voilà, là, du coup, moi, ça se mange, je dis ok, on arrive, on prend ses compétences d'illustratrice et on essaie de faire du niveau Splash Art League of Legends. Quoi. Donc là, c'était notamment pour la double page d'Hadès. Moi, j'avais ça en tête vraiment en termes de vision. Et du coup, c'était pas comme si Lou m'avait dicté tout le storyboard parce qu'on a pu entendre dernièrement, genre, tu brilles la créativité de ta dessinatrice, pas du tout. Au contraire, le storyboard de Lou m'a apporté une sécurité et un support juste énorme qui m'a permis, moi, après, d'aller chercher plus loin dans mes compétences d'illustration. Donc c'était hyper intéressant, je me suis pas du tout senti bridée à aucun moment.
Donc ça, t'as pu approfondir, en fait, ton illustration au lieu de te concentrer sur tout le reste de la BD et sur tous les autres aspects.
Je me souhaite savoir faire plus tard, mais en tout cas, là, pour ce premier album, c'est trop bien. Et je pense pour les prochains aussi, moi, ça me dérangerait pas du tout d'avoir ce même fonctionnement parce que c'est rodé, parce qu'on gagne du temps et qu'on a une bonne synergie.
Mais je pense que ça va évoluer de toute façon. On va toutes les deux, on apprend toutes les deux beaucoup.
On passe l'un de l'autre.
Donc c'est chouette. Enfin, je pense que notre processus en fin d'album était beaucoup plus rodé, plus efficace que ce qu'il était au début. Et c'est normal. Donc si on reprend quelque chose ensemble, on part pas de zéro, quoi.
Oui, c'est
on se connaît bien. On sait quelles sont nos forces à chacune et comment elles compensent nos faiblesses mutuelles. Voilà. Donc, clairement, je sais qu'il y a des moments où il faut juste que je la laisse faire sa magie parce que elle sait des choses que je sais pas, quoi.
Faire ma soupe.
C'est ça.
Dans tout ce processus là. Vos souvenirs préférés, on va dire, de la que ça a été, soit ensemble, soit dans votre côté, etc.
On a l'impression qu'on parle d'un voyage, genre, pas du tout une BD, mais...
Bah, en soi, on est sur un voyage, mine de rien.
Moi, ce qui m'a beaucoup plu, pour le coup, c'est la première fois que je ressentais ça, c'est à chaque fois que Solène m'envoyait des planches et que je recevais le truc en couleur, que je disais, waouh, c'est beau, et c'est ma BD. Genre c'est la mienne, c'est incroyable parce que toute seule je peux pas faire ça. Je dis pas ça pour m'approprier du tout.
Tout va bien, je m'en sens pas comme ça.
De recevoir des planches finies et d'avoir ce moment de découverte et d'éblouissement, c'est incroyable. Et à chaque fois, il y a certaines pages en particulier que je trouve vraiment sublimes. Je suis une grande fan du travail de Solène. Et il y a des trucs où je me disais juste, waouh. Et c'est fou, c'est moi, entre guillemets, qui ai fait ça. C'est incroyable. J'ai une fierté vis-à-vis de cette BD qui est démesurée parce que j'ai réussi à trouver la bonne personne et les bons moyens pour l'amener esthétiquement à un endroit qui m'est complètement inaccessible. Et ça, c'est super.
Et toi, Solène, du coup ?
De manière globale, pour moi, ça a été une aventure absolument incroyable. Je pense que les moments où j'ai ressenti le plus de frissons, c'était quand on faisait des brainstorming. Parce qu'il y avait vraiment ce truc de « Ah, oh, j'ai une idée, viens, on pourrait faire ça. Ah, mais c'est hyper malin. Attends, on va aller voir tel rêve et tout. » Et vraiment, c'est vraiment cette connexion artistique et humaine qui, moi, m'a donné des frissons de dire « Mais c'est ouf à quel point on est à 95% raccord quand ce qu'on a envie de représenter. » Ou à Lou, quand elle m'a dit « Ok, je veux faire en BD, je veux faire un truc qui ressemble un peu
peu au studio Ghibli, c'est-à-dire qu'on n'est pas avec des protagonistes manichéens, on est avec beaucoup de sous-lectures et de messages, avec des gros univers très présents.
Tout à fait.
Carrément. Après, en termes de dans la production, en fait, je pense que c'est tout. Moi, les meilleurs. Enfin, ce que j'en garde vraiment, c'est tous nos échanges. Parce qu'après, c'est vrai qu'en tant que dessinatrice, t'es très seule. Après, t'es vraiment dans le côté travail et t'es dans la ferronnerie de ton dessin. C'est vraiment à ce stade-là, tu es en train de faire tous les step by step. Mais c'est vrai que moi, j'attendais vraiment le retour de Lou qui me fasse c'est bon, ça passe. Que j'ai aucun problème à faire des quantités de retouches. Pour moi, il faut ce qu'il faut pour faire une belle BD. Et là-dessus, je pense que je suis relativement patiente. Mais du coup, ça m'a pas du tout dérangée. Et au contraire, ce que. Alors, paradoxalement, je pense que c'est un peu maso. Un de mes super bons souvenirs, c'est que Lou, quand elle te fait des retours, elle ne passe pas par quatre chemins. C'est très cash, c'est très franc, tu perds pas de temps. Et moi, ça, quelque part, j'adore parce que du coup, je sais que j'ai plein de lacunes dans mon dessin, surtout dans mon dessin de personnage. Et elle a un regard de lynx, et du coup, ça vraiment, ça passait pas par quatre chemins. Et du coup, on parlait pas de temps, et j'avais la sensation d'avancer. Moi, c'est trop bien. Du coup, pour moi, la production, c'est super bien passé. Ça a été très intense. Mais vraiment, ça s'est super bien passé.
Mais c'est génial de travailler avec quelqu'un qui est à l'écoute. Quand je dis que ça colle pas.
Ça va pas.
Mais c'est toujours justifié.
C'est pas
une question de goût personnel.
Ah non, vraiment.
Oui.
Je sais dans quelle direction j'ai envie d'emmener les choses. Et d'avoir la confiance de Solène là-dessus et qu'elle me suive, c'est incroyable. Et qu'elle soit capable de remettre en question son dessin sans remettre en question ni ses compétences, ni son travail dans la globalité. Mais juste de dire ok, sur telle image. Faut la refaire la case où là le visage il couille et c'est pas beau et ben
non, mais il y en a pas eu tant que ça des retouches en vrai.
Ouais, en vrai ça va. Hein.
Ça va.
Ça aurait pu être.
Et puis on a eu le temps, on avait pris ça en compte et
ouais.
On n'a pas de regret de dire bon cette case là on l'a laissé passer mais
ah non, ouais.
On n'est pas fiers non. Tout est vraiment tel qu'on voulait.
Ouais. Non j'ai aucun regret, j'ai vraiment. On a tout donné sur les compétences qu'on avait à ce moment-là.
Cette discussion cash, je suppose que ça participe énormément à la réussite, mine de rien, et d'avoir des retours qui soient francs au moins.
Il n'y a pas d'ego et vraiment dans une synergie de production, c'est vraiment pour le bien de l'album, pour le bien du produit. Vraiment, s'il y a ça à refaire, mais on le refait. On a le
jusqu'au
temps,
bout, ouais.
On le refait.
C'est qu'on a bien géré le planning aussi.
Ouais.
Parce que tout à l'heure, on entendait les auteurs de Vertigéo qui n'ont pas eu le temps de faire de corrections.
Un mois, 26 planches à faire. Et pas le temps de faire des corrections à la fois.
C'est tendu, leur affaire.
C'est super tendu.
Bonne gestion de planning.
Parce qu'on est carré.
Qui a tout carré.
Voilà, moi quand j'en parlais à d'autres amis artistes, ils me disaient mais vous fonctionnez comment en termes de timing? Et on a un tracker de timing. Et quoi? Mais si, avec des pourcentages et tout. On a des stats et tout. C'est hyper intéressant. Et du coup, j'ai mes amis qui me disent mais moi j'aurais super stressé. Ça m'a vachement apaisé justement de savoir où est-ce que j'en étais. Ça m'a vachement apaisé.
Mais en fait, on fait pas de l'art déconnecté du monde, on est dans des logiques de production. On a un travail à rendre dans un délai avec un budget. Donc à un moment, il faut être carré aussi. Il faut savoir, avec l'argent de l'avance qu'on nous paye, combien de temps on peut travailler, comment faire en sorte pour que ce travail rentre dans ce temps. Et je vois. La seule critique récurrente que je vois sur Eurydice, c'est que c'est trop court. Les gens auraient bien aimé en avoir un peu plus, que ça passe un peu vite, etc. Et j'entends, je suis assez d'accord, je l'ai ressenti aussi. Mais en fait, Solène a besoin de minimum 2 jours par planche, maximum 2 semaines pour les grosses doubles pages.
Justement, sur le fait que ce soit court, moi, à titre perso. Personnel, ça m'a pas, c'est pas ce qui m'a sauté aux yeux, le fait que ce soit court.
Ouais.
Question de goût, beaucoup, parce que mine de rien, on est sur une BD où il y a peu de bulles, au final, je trouve, par rapport à d'autres, mine de rien, il y a assez peu de bulles, on est beaucoup dans le contemplatif, de la BD, ce qui est une très bonne chose, et d'avoir justement la narration qui passe par le dessin assez, très très facilement, mine de rien, c'est une bonne chose. Parce qu'effectivement, quand je l'ai trouvé de la BD, je fais, ah non, c'est assez épais quand même.
Je pense que t'as un rapport à mes paginations habituelles de 200-250 pages.
Ah oui,
là, on est sur du 110, donc forcément.
Ça peut changer les lecteurs habitués, effectivement.
En fait, je pense que le trick pour le prochain, si jamais d'aventure il y en a un, c'est que moi, dans mon dessin, il faut que je le remette un peu en question pour faire des économies de temps à certains endroits, pour permettre ensuite en termes. Parce que forcément, du coup, si tu rajoutes des pages, c'est un coût et ça, c'est un temps. Donc, du coup, moi, je pense que ce que je peux faire pour les prochains pour m'améliorer, c'est effectivement me roder sur mon dessin au trait et trouver d'autres techniques pour aller plus vite. pour avoir le même rendu, mais plus vite, plus allégé sur certains aspects. Parce que là, j'ai encore mon dessin, il est bourré de trucs d'illustrateur, hein, vraiment. Ça se sent, et je pense que j'ai un travail à faire un peu d'épuré pour que ça soit tout aussi efficace et esthétique pour justement gagner du temps sur la narration dans la pagination.
Mais est-ce que par rapport à cette histoire aussi, tout simplement, le fait que ce soit plus court que d'habitude, c'est pas juste une nécessité par rapport à ce que vous vouliez raconter?
Ça aurait pu être plus long,
mais on n'avait pas le budget, en fait.
C'est ça, oui.
Parce que là, au final, soit Solène travaillait sans être payée, soit elle travaillait les soirs et les week-ends. Il n'y a pas d'autre option. Et moi, je trouve que mettre sa santé en jeu pour une bande dessinée, c'est non. Parce que ça reste du travail, donc on n'est pas là pour se sacrifier. Et travailler sans être payé, pareil, c'est un gros sacrifice, quoi. C'est pas toujours possible. Quand on est sur son premier livre et qu'on n'a pas forcément de ressources à côté, non, en fait. Donc, moi, je pense que ça fonctionne quand même comme ça. J'entends les retours qui auraient voulu plus.
Mais quelque part, c'est des retours intéressants. Ça veut dire que ils ont aimé et que du coup, il y a la
question qu'on en voudrait plus. Effectivement, c'est à fait.
Et ça à prendre en compte pour le prochain.
C'est un bon retour.
Vaut mieux ça que l'inverse.
Ah, carrément, c'est trop long.
C'est trop long, on s'ennuyait.
C'est
trop nul, on s'ennuie,
c'est plus problématique.
Et je voulais venir, je passe un peu du coq à l'âne sur une question sur. Parce qu'on, dans la BD, on a toute une partie un peu. On parle beaucoup de musique et de chant, forcément, vu qu'elle est tirée du mythe d'Orphée et Eurydice, notamment. Il y a d'autres aspects qui sont abordés. Est-ce que, du coup, vous travaillez en musique ou pas?
Moi, je peux pas écrire en musique. Et vu que j'ai fait que écrire, non. Voilà.
Du coup, quand je dessine
mes autres albums, j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts. Mmh. Mais là, sur l'écriture, j'ai besoin d'être concentrée.
D'accord.
Si, j'ai écouté Hades Down, pas mal. Mais c'est tout.
Alors écoute-moi bien, moi j'ai des playlists entières en fonction des moods dans l'album. C'est-à-dire que je fonctionne énormément en musique. Et pour vraiment choper les émotions de ce que je veux retranscrire, mais aussi de ce que vous voulez retranscrire dans certaines pages, j'avais une bande son spéciale Eurydice dans ma playlist YouTube avec toutes les musiques en ordre en fonction de l'album.
Pour moi,
c'est hyper important vraiment quand je dessine d'être dans le mood émotionnel de ce que je veux raconter, parce qu'il y a effectivement une partie très technique en termes de dessin académique pur. Mais après, t'as toute une partie qui est plus émotionnelle, et c'est la partie un peu magique du dessin. Et pour moi, si j'ai pas la bonne musique, la bonne ambiance, ça va être un peu différent, ça va être un peu compliqué, je vais pas me sentir dedans. Et en fait, généralement, je sens que je suis dans le bon mood de dessin quand je commence à avoir des frissons, de dire ok, là c'est bon, je tiens le truc,
t'as l'émotion qui te
Ah oui, voilà, ça porte tout sur un truc, tu te dis ok, c'est bon, là je suis dedans, là j'ai le truc, je vois les dessins bouger comme si c'était dans un film, j'ai le mood, ok, là je suis bien. Mais je suis vraiment très très liée à la musique personnellement quand je travaille. Je peux travailler en silence. Mais je suis beaucoup plus efficace et en hyper focus quand j'ai la bonne musique et le bon truc. Du coup, en fait, je me crée des playlists par image.
Ok. Pour tu peux arriver, on va lentement arriver sur la fin. J'ai une petite question. On va faire une sorte de portrait chinois. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, moi j'avais une petite question. Est-ce que vous aimeriez vivre dans cet univers précisément? On va pas trop spoil non plus. Mais
c'est pas joyeux.
Mais il y a des aspects joyeux, mine de rien, quand même un petit peu à l'intérieur.
C'est beau
et il y a une sorte d'espoir qui est mis en avant. Après,
c'est une société plutôt désespérée en réalité.
On a fait un bon taf en le rendant joli, je pense. Mais de la vouloir y habiter,
Sinon, du coup, dans quel univers? Si vous êtes. Non, je vais pas là-dedans.
Si je devais choisir un univers dans lequel je voudrais habiter.
Ou vivre, tout simplement, mais.
C'est une question assez. J'adore. je sais pas. J'aime bien les univers. Juste empreint d'enchantement, je sais pas, je pense à l'univers de Ni No Kuni par exemple. Why not? C'est mignon, les choses sont cool, y a pas de problème.
Moi je pense que j'aimerais bien être dans l'univers du manga L'Atelier des Sorciers, je pense.
J'adorerais. Je pense qu'il faut distinguer un univers cool qu'on aime dans la fiction, parce qu'il est chouette à lire.
Oui, personne te dira j'ai envie de vivre dans l'Attaque des Titans.
C'est une très mauvaise idée. C'est très cool, mais en même temps.
Je pense qu'il vaut mieux des univers un peu chiants pour aller habiter dedans, parce que c'est.
Donc ouais, c'est ta raison, toi, de te dire voilà, je vais chez Nino Kuni pour.
C'est sympa.
Ouais, l'Atelier des Sorciers aussi, c'est bien.
Je connais pas.
Ouais.
Le paysan moyen vit bien sa vie. Ça va.
D'accord.
C'est cool.
Et Imaginons que là vous revivriez vos 18 ans, votre anniversaire. Est-ce que vous avez un objet en particulier du monde, effectivement, de l'imaginaire que vous auriez aimé avoir?
De la BD?
De la BD ou de n'importe quoi d'autre, n'importe quel autre univers. Et qui soit fonctionnel, hein, pas juste décoratif. Hein,
mais... Je sais pas. Je crois que si j'avais un Death Note, je ferais des ravages. Genre, tous les dictateurs, ça ferait longtemps qu'ils seraient plus en place. Justicia de Mario. J'adore. Faut pas me laisser faire en fait. Ce serait l'hécatombe. Moi je pense à 18 ans j'aurais rêvé d'avoir un calcifère. Genre dans le château ambulant, j'aurais rêvé d'avoir un démon qui balance des petites blagues, j'aurais rêvé. Trop bien, tu lui donnes à manger tes œufs et tout, c'est trop bien. C'est pas aussi utile qu'un Death Note,
ouais.
C'est mignon, encore une fois. Ça fait bouger ta maison, c'est bien.
C'est pratique, mine de rien. Ça fait bouger ta maison.
C'est hyper pratique. Puis en vrai, il y a un potentiel de vanne juste incroyable. Allez, c'est validé.
Je valide. Et bien, du coup, bah, on arrive sur la fin.
Merci.
Voilà, merci à vous pour ce petit temps que vous m'avez accordé. À moi et à toute l'association Imaginaire.
Pas le temps d'écouter Eurydice, le morceau de Catherine Grindorge.
Donc moi je vais vous rappeler les finalistes au prix du livre jeu en catégorie enfant: Oli Osley, le manoir maudit chez Sarbacane, Sauve ton Tamagotchi chez les livres du Dragon d'Or, Toutou détective, Disparition claire de lune, le deuxième tome chez Inis Édition, et en catégorie adulte: Reine de l'Ouest, toujours chez Sarbacane, Notos chez Alconost et Survivre à Herlier chez Chacos. Et vous en saurez plus, donc qui va gagner?
On vous dira ça dans deux semaines, prochaine émission.
Voilà.
Salut.